cœur de l'info. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriac au micro, Annale Burton à mes côtés. Bienvenue à cette édition du lundi 20 avril 2015. Au sommaire ce matin, nouvelle vidéo du groupe État islamique. Les images montrent l'exécution d'au moins 28 hommes présentés comme des Éthiopiens. En Guinée, le pouvoir et l'opposition se sont rencontrés hier, mais pas question de suspendre les manifestations, indique Sélou Dalène Diallo.
L'opposition appelle à une nouvelle marche lundi et mardi et une autre jeudi pour Adi Sélou Dalène Diallo exiger la démission de Alpha Condé.
Nous reviendrons sur le naufrage de ce week-end en Méditerranée. Le bilan pourrait avoisiner les 700 morts. Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. Nouvelle vidéo du groupe État islamique. Les terribles images diffusées hier montrent l'exécution d'au moins 28 hommes présentés comme des Éthiopiens, des crimes vraisemblablement commis en Libye. Henri Francisque nous en dit plus.
Dans cette vidéo de 29 minutes, les victimes sont présentées comme des fidèles de l'église éthiopienne ennemie. Au moins 12 hommes de premier groupe sont décapités au couteau sur une plage, tandis qu'au moins 16 d'un second groupe sont tués par balles à bout portant dans une zone désertique indéterminée. Sur ces images, un orateur s'exprimant en anglais, vêtu de noir et brandissant un pistolet, menace les chrétiens s'ils ne se convertissent pas à l'islam. L'ambassade d'Éthiopie en Égypte tentait d'obtenir la confirmation de la nationalité éthiopienne des victimes. En revanche, Addis Abeba, cité par l'AFP, a d'ores et déjà condamné ces atrocités, qu'elles concernent les Éthiopiens ou d'autres nationalités. La diffusion de cette vidéo sur des sites djihadistes intervient 2 mois après celle d'images d'exécution de 21 chrétiens coptes pour la plupart des Égyptiens, ce qui avait provoqué une réaction armée du Caire.
À noter que la Maison-Blanche a très fermement condamné ces exécutions, les qualifiant de massacres brutales. En Guinée, première rencontre entre le pouvoir et l'opposition depuis près d'un an et demi. D'après l'AFP, une délégation du gouvernement s'est entretenue hier avec le chef de l'opposition, l'ex-premier ministre Sélou Dalène Diallo. Cette visite de relance du dialogue a eu lieu au domicile de M. Diallo, selon un communiqué du gouvernement. La délégation était conduite par le ministre de la Justice, Cheikh Sako, chargé du dialogue avec l'opposition. Sélou Dalène Diallo a confirmé la rencontre à l'AFP, précisant qu'il était hors de question de suspendre les manifestations sans garantie d'application d'un accord de 2013 prévoyant la tenue des élections locales avant la présidentielle. Manifestation visant à exiger la démission du président Alpha Condé. Correspondance de Zakaria Camara.
Le chef de file de l'opposition guinéenne a répété à ses militants samedi que les manifestations de la semaine dernière sont une grande victoire. Sélou Dalène Diallo a aussi qualifié de provocation les propos du président Alpha Condé sur la voie de l'Amérique.
Au moment où même ici, à Conakry, certains de ses ministres essaient de travailler pour le dialogue de Washington, il déclare qu'il n'a pas besoin de dialogue et les élections communales n'auront pas lieu avant les présidentielles.
Conséquence de l'interview du président guinéen, l'opposition appelle à une nouvelle marche lundi et mardi et une autre jeudi pour Addis Sélou Dalène Diallo exiger la démission de Alpha Condé.
Le jeudi, c'est l'ensemble de la Guinée qui va se lever pour dire qu'on n'est pas d'accord pour exiger la démission de Alpha Condé.
Sélou Dalène Diallo accuse le président Condé et le président de la Commission électorale nationale indépendante d'être responsables des crimes commis à Conakry et menace de les faire traduire devant les juridictions internationales. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Recrudescence de l'insécurité dans le nord du Mali, un convoi de fournisseurs civils de la mission onusienne a fait l'objet d'une attaque vendredi soir à l'ouest de Gao. Bilan, 2 morts et 1 blessé par balle. La MINUSMA condamne cette nouvelle attaque touchant des civils. Le point avec Boubacar Touré, notre correspondant à Gao.
C'est à 15 km à l'ouest de la ville de Gao, sur la route de Kossi, que le vendredi dernier, vers 19h, heure locale, un convoi de fournisseurs civils de l'aménagement a été attaqué par deux hommes qui circulaient sur une moto. Les assassins qui ont arrêté le convoi ont froidement abattu deux des chauffeurs avant de mettre le feu dans les camions qui transportaient le matériel de la mission onusienne. Les autres membres du convoi, dont un blessé par balle, ont réussi à prendre la fuite. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. L'aménagement condamne fermement cette nouvelle attaque touchant des civils innocents. Il faut le rappeler, c'est seulement le mercredi dernier qu'un kamikaze s'est fait exploser à la rentrée du camp de l'aménagement dans Songo 6 à Monzonga, faisant 3 morts dont un enfant et plusieurs blessés. Kao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le bilan du naufrage survenu en Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche pourrait avoisiner les 700 morts. Cette tragédie a suscité de vives réactions en Europe, nous dit Chérubin Dorsil.
C'est maintenant le moment pour l'Union européenne de faire face sans délai à cette tragédie, a déclaré la chef de la politique étrangère à l'UE, Federica Mogherini. De son côté, le président français François Hollande a appelé les dirigeants à combattre le trafic humain qui conduit à de tels désastres.
Nous devons là aussi renforcer le nombre de bateaux qui sont dans le cadre d'une opération qui s'appelle Triton. Rien que le nom n'est pas forcément adapté à la situation. Donc plus de bateaux, plus de survols par des avions et puis également une lutte beaucoup plus intense par rapport au trafic. Parce que ceux qui mettent des personnes sur des bateaux, ce sont des trafiquants, même ce sont des terroristes, parce qu'ils savent parfaitement que ces bateaux sont pourris et qu'ils vont même les détruire en pleine mer et mettre des centaines de personnes en danger, en l'occurrence là, en danger de mort.
Le président François Hollande. L'Union européenne envisage prochainement un sommet extraordinaire. C'est ce que rapporte l'AFP, citant le président du Conseil européen, Donald Tusk. L'an dernier, 4000 migrants, en majorité africains, sont morts en Méditerranée alors qu'ils partaient à la recherche d'une vie meilleure en Europe.
6 soldats de l'Union africaine ont été tués dans 2 embuscades séparées par des militants d'Al-Shabaab dans le sud de la Somalie ce week-end. La MISOM a fait savoir que 3 soldats burundais ont été tués dimanche, au lendemain d'une autre embuscade qui a fait 3 morts et 8 blessés au sein du contingent du Kenya.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'armée libanaise doit recevoir ce lundi une première livraison d'armes françaises. 48 missiles anti-chars financés par un don saoudien de 3 milliards de dollars. La France et l'Arabie saoudite espèrent ainsi contribuer à la stabilité du Liban et lui permettre de mieux faire face à la menace djihadiste venant de Syrie. Plus de 90 000 personnes ont fui les combats entre forces gouvernementales irakiennes et le groupe djihadiste État islamique dans la région de Ramadi à l'ouest de Bagdad. C'est ce qu'a indiqué l'ONU hier. Au Yémen, le chef des insurgés, Abdelmalek Al-Houthi, a assuré dimanche que son groupe résisterait face à l'agression saoudienne. L'Arabie saoudite y mène depuis plus de 3 semaines des frappes aériennes contre la rébellion chiite Houthi. Dans le même temps, le parti de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, accusé de s'être allié à la rébellion, s'est félicité d'une récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, sommant la rébellion de se retirer des larges zones qu'elle a conquises dans le pays. Sur le terrain, des combats particulièrement meurtriers entre rebelles et partisans du président Abdarabo Mansour Hadi, réfugié en Arabie saoudite, ont eu lieu dans 4 villes du sud du pays. L'AFP fait état de 85 morts en moins de 24 heures, selon un bilan partiel.
Les Cubains votaient hier lors de municipales. D'après l'AFP, plus de 8 millions d'électeurs âgés de plus de 16 ans étaient appelés à élire à main levée lors d'assemblées de quartier 12 589 conseillers municipaux sur quelque 30 000 candidats. Pour la première fois, 2 opposants se sont présentés candidats. Un véritable acte de démocratie, estiment les autorités cubaines.
Nucléaire iranien, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a encore une fois critiqué les États-Unis, accusant le gouvernement Obama d'inventer ce qu'il appelle le mythe de la menace nucléaire iranienne. L'ayatollah Khamenei a exhorté ses forces armées à préparer des mesures défensives suite à l'avertissement lancé la semaine dernière par un haut gradé américain sur d'éventuelles frappe contre les sites nucléaires de l'Iran. Le chef d'état-major interarmes Martin Dempsey avait dit jeudi que l'option militaire pour empêcher l'acquisition de l'arme Tomahawk par Téhéran reste intacte.
Enfin, le président chinois Xi Jinping entreprend demain une tournée de 2 jours au Pakistan, emportant avec lui la promesse de 46 milliards de dollars en projets d'infrastructure.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Bagessikoura.
Les États-Unis et le Japon veulent que la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement s'associent avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures dans le cadre des crédits syndiqués afin d'établir des normes fortes pour cette nouvelle banque lancée par la Chine. Par ailleurs, Birama Boubacar Sidibé, candidat du Mali à la présidence de la BAD, est en tournée ici aux États-Unis. Pour lui, la Chine est un grand partenaire qui doit être accueilli à bras ouverts par la banque.
Le fait que la Chine vienne est une très bonne chose, mais comme la banque est sur son territoire, il lui revient à elle d'accueillir la Chine, les investisseurs chinois, et qu'ensemble ils définissent un ensemble de modus operandi pour que l'investissement dans les infrastructures se fasse de façon soutenable, que les choses soient bien faites pour le bénéfice des Africains.
Les 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, ont demandé vendredi à Washington un plan d'aide international s'élevant au total à 8 milliards de dollars, dont 1 milliard pour les 2 prochaines années. Nous ne sommes pas sortis du bois, a souligné le président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma. Et pour terminer, disons que les cours du coton continuent de chuter sous le coup d'annulation de commandes ici à New York. Vendredi, ces cours ont subi une forte chute après un mauvais indicateur sur les exportations. La demande reste un gros problème car la Chine détient la moitié de l'offre mondiale, à faire valoir de son côté Jacques Scoville chez Price Future Group.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Bagassi. Les sports, c'est tout de suite avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Morgane.
On commence par la CAN de Beach Soccer. Madagascar remporte cette édition de 2015.
Les Malgaches ont dominé en finale les tenants du titre sénégalais au tir au but 2-1. Un but partout après le temps réglementaire. Le prix titre pour Madagascar. À noter que les 2 équipes sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde de l'épreuve qui aura lieu au Portugal.
Le Portugais Mariano Barreto n'est plus le sélectionneur de l'Éthiopie.
Arrivé à la tête de cette sélection en avril 2014 et passé auparavant au Ghana, Barreto paye le mauvais parcours de l'Éthiopie lors des éliminatoires de la CAN 2015. Son remplaçant sera connu d'ici le début des éliminatoires de la CAN 2017.
Le foot, c'est également les 8e de finale aller et des Coupes d'Afrique des clubs. Retour sur la Ligue des Champions et la bonne opération des clubs soudanais.
Oui Morgane, ces 2 clubs tous vainqueurs des matchs allés de ces 8e de finale. D'abord El Merriek à domicile contre l'Espérance de Tunis 1-0. Même score cette fois en déplacement pour Al Hilal à Kinshasa face à Sanga Balende. But de Saïf Eldin à la 84e minute. L'AC Leopards de Dolisi s'offre à domicile les Égyptiens de Smouha 1-0. Le tout puissant Mazembe est allé chercher le nul 2 buts partout à Bamako face au stade malien. Pour les autres résultats, notons entre autres le bon nul du tenant du titre, l'entente de Sétif à Casablanca face au Raja 2-2, victoire des 2 autres clubs algériens à domicile, l'USM Alger et El Ulma, respectivement face à l'AS Kaloum 2-1 et le club sportif facien 1-0.
La Coupe de la Confédération à présent est bonne performance pour la SEC d'Abidjan.
Le club ivoirien est allé s'imposer à Bamako face à 11 créateurs sur la marque de 1-0 et décidément pour les clubs maliens qui jouaient tous à domicile lors de ces 8e de finale aller. L'AC Djoliba a également perdu face aux Ghanéens d'Asofoc 2-1. Autre résultat, les Gabonais du CF Mounana accrochés à domicile par les Sud-Africains d'Orlando Pirates 2-partout. Nul cette fois blanc entre Zamalek et le Fus de Rabat.
Une journée difficile par contre pour la République démocratique du Congo.
Effectivement Morgan, MK s'est incliné au Nigeria face aux Warriors 2-1. Mais surtout, l'ASV Club, finaliste de la dernière Ligue des Champions, a été battu par le Royal Léopard au Swaziland 1-0. Autre résultat, notons le match nul surprenant entre les Tanzaniens de Young Africans et l'Étoile du Sahel 1-partout. Même score pour le match Azoshlef et le club africain de Tunis. Basketball à présent avec la NBA et les résultats des playoffs avec vous Morgan.
Boston Celtic, Cleveland Cavaliers 100-113, Portland Memphis 86-100, Brooklyn Atlanta 92-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie pour cette édition du lundi 20 avril 2015. Place au dossier du jour. L'accord d'Alger sera signé le 15 mai à Bamako. Et c'est du moins ce qu'affirme la médiation internationale, assurant qu'elle veillera à sa mise en place. Cela fait suite à une semaine de réunions entre la médiation internationale, les mouvements du nord du Mali et les autorités de Bamako en Algérie. Le souhait des mouvements de l'Azawad était la réouverture des négociations, ce qui n'est plus possible selon les médiateurs. Alors comment cette décision a été accueillie à Bamako? Élément de réponse avec Kassim Traoré.
La communauté internationale a publié un communiqué le samedi dernier pour annoncer qu'il y aura la signature de l'accord de paix. Mais la coordination des mouvements de l'Azawad ne souhaite toujours pas paraffer le texte. Certains Bamakois nous ont donné leur avis.
Je pense que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités cette fois-ci. Rien ne doit empêcher la signature de cet accord-là prévu le 15 mai. La coordination du mouvement de l'Azawad ne sont pas d'accord pour cet accord-là. Je pense qu'il faut le signer sans eux. Et les là, on verra.
La CEMA, si elle était réellement sincère, elle aurait pu savoir que tout au moins, il y a une population derrière elle qui souffre depuis plus de 3 ans, 4 ans maintenant, et qu'il faudrait vraiment chercher une solution pour atténuer leur souffrance.
Le refus de la CEMA de paraffer l'accord n'est pas une bonne chose. Selon Hassan El Meidi, dit Jimmy les rebelles, il est le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad, FPA.
Et nous lançons un appel à nos frères de la coordination d'essayer d'accompagner les documents qu'ensemble avec la communauté internationale pendant 8 mois, on travaillait de l'accompagner à aller vers l'avant. Ça permettra plus d'ouverture, ça permettra plus de compréhension entre les parties en vue d'aller à une solution définitive à ces problèmes. Aujourd'hui, il y a des populations qui, au fond d'elles-mêmes, elles savent ce qu'elles veulent, mais elles ne veulent pas se déterminer parce qu'elles ne voient pas superficiellement, elles ne savent pas qu'il faut. Il faut que chacun prenne la responsabilité de dire ce qu'il veut.
Dans la région de Tombouctou, l'annonce de la date de signature de l'accord a été bien accueillie par les populations. Azarog Ag, de la communauté qu'elle enseigne, de Gundam.
Cette signature des accords normalement doit déboucher sur tout le processus de cantonnement, de démobilisation, de désarmement. Je pense qu'au niveau de la région de Tombouctou, en tout cas, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Et l'accord est attendu à bras ouverts. Et au niveau de la région, je pense que tout le monde est d'avis qu'il faut aller vers l'accord. Parce que la population vraiment est prise en otage, quoi. Et tant qu'il n'y a pas un consensus, un cadre à l'intérieur duquel les gens doivent évoluer dans l'affaire, cela va continuer.
Selon le journaliste Bruno Loma, la communauté internationale a été très patiente avec la CMA.
Je crois que cette communauté internationale devra faire avec ceux qui veulent la paix. Notamment, on parle de HSOA, on parle de MRAMA, puisque l'Algérie se dit fatiguée. Donc la signature aura bel et bien lieu sur injonction de la communauté internationale pour qu'on puisse finalement en découdre avec cette crise qui n'a que trop duré. Et puis on verra ce qui va se passer.
En tout cas, la CMA a encore un mois pour paraffer les documents. Sans quoi elle fera face aux sanctions de la communauté internationale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nous partons maintenant au Bénin, où la campagne électorale bat son plein. D'après notre correspondant, les programmes et propositions concrètes des candidats à l'Assemblée nationale ont laissé place aux insultes.
Les Béninois n'apprécient pas dans leur majorité les discours qui sont tenus par les différents candidats en lice pour quitter leur suffrage aux élections législatives du 26 avril prochain. La plupart d'entre eux trouvent qu'ils versent dans des dérives qui, à terme, mettront à mal la paix et l'unité nationale. Écoutons quelques-uns d'entre eux rencontrés à Cotonou.
Certains n'ont pas compris que la campagne devait être une fête et ils vont au-delà de l'ambiance qui devait quand même régner jusqu'aux injures. Non, Ce n'est pas avec des injures qu'on va sensibiliser le peuple. Non, c'est avec une certaine courtoisie et avec un programme donné. Et je voudrais dire à mes compatriotes que dans tout ça, ce qui nous lie et ce que nous avons de commun, c'est le pays, c'est le bien. Et nous devons tout faire pour sauvegarder la paix. La paix qui a régné et qui règne dans notre pays.
Les populations sont déçues parce qu'il y a trop de dérives. Vous savez ce qui se passe là, les injures, les invectives, c'est pas ça qui construit une société. Il y a deux mesures qui sont importantes. La première mesure, c'est la mesure de la hauteur. Quand on prend la parole, on peut parler à des populations, à des électeurs, il faut avoir de la hauteur dans la prise de parole. La deuxième mesure qu'il faut respecter, c'est la mesure de limite. C'est-à-dire, lorsque vous parlez aux gens, il faut avoir de la retenue. Il faut savoir que tout ne doit pas être dit. Parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Mais il y a une confusion totale dans ces principes.
Moi, j'invite les gens à choisir des listes qui ont des visions, qui ont un programme d'action pour le développement de notre pays, le Bénin. Le pays est en retard sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sportif et sur le plan technique. Nous sommes totalement en arrière. Il va falloir nous réorganiser autrement pour qu'on puisse quand même accompagner le développement de ce pays. Ce n'est pas à travers les injures, à travers les haines, à travers les mésententes que nous avons développé notre pays, le Bénin. Non, le Bénin a besoin de s'organiser mieux que ce que nous voyons aujourd'hui.
Tous ceux qui vont s'attaquer à la personne du chef de l'État sont sûrs de perdre des voix. Et tous ceux qui seront attaqués ou vilipendés par le chef de l'État sont sûrs de gagner des voix. Donc si quelqu'un veut réussir pour sa campagne, c'est à lui de savoir quel comportement adopter sur le terrain. Parce qu'il doit apprendre à connaître le Béninois. Le Béninois n'aime pas les injures. Qu'on soit placé au plus gros sommet de l'État, qu'on soit un sulbaptême, lorsque vous êtes donné aux injures, le Béninois vous déteste. Et à chaque fois qu'un candidat ou une personnalité prononce des injures, il faut rentrer dans le peuple pour voir ce que les gens disent.
La campagne électorale prend fin le 24 avril prochain. Peggy Ludovic Dagbar, Cotonou, VOA Afrique.
Cap maintenant sur le Burkina Faso. Les députés de la transition ont interpellé le gouvernement au sujet des personnes tombées pendant l'insurrection. Où en est la justice? Le ministre de l'Enseignement supérieur, Filiga Michel Sawadogo, est venu à la barre. De Ouagadougou, le compte-rendu de Zoumana Wanogo.
Questions orales avec débat. C'est à cet exercice que les députés de la transition ont convié le gouvernement sur l'évolution du dossier des victimes de l'insurrection. En l'absence du ministre de la Justice, c'est son collègue de l'enseignement supérieur qui est venu répondre. On écoute les réponses du ministre Michel Filiga Sawadogo.
La situation est un peu plus délicate. Dans les premiers jours, c'était la poursuite de la lutte parce que déjà la communauté internationale était là pour dire qu'il faut faire revenir le président de l'Assemblée nationale, etc. Donc ça fait que personne n'a pris la précaution de recueillir beaucoup d'éléments. Donc c'est maintenant qu'il faut rechercher et donc c'est pas facile. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses à l'étape actuelle. Mais bon, on est quand même sûr qu'avec la mobilisation des différents cabinets d'instruction, des choses seront trouvées et puis on pourra avancer. Donc voilà, c'est une réponse un peu générale, mais c'est ce qu'on peut dire à ce stade-là, d'autant plus que les éléments recueillis ont un caractère confidentiel.
Le député, auteur de la question, est-il satisfait des réponses? A demandé le président de séance. Suivons l'avis du député, auteur de la question. Il s'appelle Casimir Sawadogo.
Et satisfait, je dirais, à 80%. Et je sais qu'il y a quelque chose qui est fait, mais je me dis qu'il faudrait beaucoup plus aller très vite. Aller très vite à court du temps qui nous reste. Aller très vite pour que les cœurs puissent s'apaiser. La question concernant les martyrs, je pense que c'est une question primordiale de l'insurrection. Si nous sommes ici au CNT, c'est grâce à des gens qui sont acceptés de se sacrifier. Et c'est à cause de tout ça que nous voudrions véritablement que la lumière soit faite autour de tous ces événements-là.
Cela a ainsi ouvert les débats et le député Bakary Koné a dit ceci.
Il faut véritablement la création des tribunaux spéciaux qui puissent plancher sur les crimes de sang qui sont intervenus, les 30
le 31 octobre 2014. Ça devrait être une priorité pour la transition.
Nous sommes alors repartis vers le ministre Filiga Savadogo pour savoir ce qu'il pense de la proposition sur les tribunaux spéciaux.
En fait, les tribunaux spéciaux, ce sont des tribunaux qui peuvent fonctionner rapidement sans respecter peut-être un certain nombre de procédures. Cela n'était pas souhaitable dans l'état d'évolution de la question des droits humains, dont les droits liés à la justice dans notre pays. Ce que nous devons faire, et c'est ce qui est en train d'être fait, c'est de tout mettre en œuvre pour que les juridictions de droit commun, les juridictions habituelles, puissent fonctionner rapidement et connaître de ces affaires-là et les trancher de façon juste et équilibrée.
Zoumana Wounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Paris accueillera en décembre prochain la 21e conférence climatique internationale baptisée COP21, durant laquelle 195 États vont tenter d'aboutir à un accord pour contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. Représentante française chargée des négociations climatiques, Laurence Tubiana était de passage à Washington DC à l'occasion des assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Elle revient sur les difficultés et les clivages qui opposent les pays du Nord et du Sud en matière de réchauffement climatique.
Ce dont il s'agit, ça n'est pas de sacrifier le développement pour la protection de l'environnement, qui était la problématique de discussion traditionnelle, mais au contraire, l'idée qu'on réfléchit à un nouveau développement qui va à la fois nous protéger d'un changement climatique excessif et en même temps fournir du développement. Et ça s'adresse aux questions de sécurité alimentaire, d'agriculture par exemple. Ça s'adresse aux questions d'énergie, d'accès à l'énergie propre. Ça traite la question de villes beaucoup plus durables qui vont être aussi plus faciles à vivre. Donc c'est une grande politique de lutte contre le changement climatique en Afrique. Ça sera des bonnes politiques de transport. Donc tout ça fait qu'on change un peu la façon de faire, de voir. Hein. Ça n'est pas le développement contre l'environnement, mais il faut qu'on ait un bon développement. Et du coup, ce n'est pas la question nord-sud, puisque c'est la question comment tout le monde, à sa façon, à son rythme, selon ses propres choix, se développe dans un sens qui est le seul vivable. Parce que si on a un changement climatique qui s'accélère, comme c'est aujourd'hui le cas, on n'aura pas de développement du tout. C'est ça qui a tout changé, je crois, dans la discussion.
Est-ce que vous pensez que l'Afrique a suffisamment sa place au sein de cette prochaine conférence parisienne?
Alors, c'est vrai que le fait que l'Afrique soit un émetteur faible et en revanche une victime importante du changement climatique place le continent dans une situation un peu difficile. Et donc c'est vrai qu'on entend beaucoup les gros émetteurs parce qu'ils ont quelque chose à défendre, c'est-à-dire essayer de ne pas aller trop vite ou essayer bien sûr de faire porter la charge sur quelqu'un d'autre. Mais là aussi, d'abord le continent africain s'est organisé de plus en plus. Il y a maintenant un groupe Afrique bien organisé qui s'exprime d'une seule voix. Il n'y a pas encore une expression politique au niveau des chefs d'État. Ça va venir certainement dans les mois qui viennent. Bien sûr, les problématiques entre les pays africains sont extraordinairement différentes. Entre la zone soudano-sahélienne, l'Afrique tropicale qui, elle, est essentiellement un sujet sur les forêts, les grands pays exportateurs de ressources fossiles, il y en a beaucoup en Afrique, les pays de revenus intermédiaires qui n'ont pas la même problématique que les pays les plus pauvres. Tout ça fait évidemment beaucoup de choses différentes, d'intérêts différents à gérer de façon collective. Mais là où l'Afrique se retrouve et fait entendre sa voix, et je le constate tous les jours, c'est pour montrer qu'il faut prendre très au sérieux l'adaptation au changement climatique. C'est une question politique aussi importante que la réduction des émissions et ça, c'est une victoire de l'Afrique.
Laurence Tubiana, représentante française chargée des négociations climatiques, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. Midnight, come and pick me up, no headlights.
'cause I know exactly where it leads, but I watch us go round and round each time. You got that dream.
Morgane Guiriec au micro, Anna Alberson à mes côtés. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info.